France Info. 20h, 21h, France Info, les informés.
Nicolas Creusel.
Bonsoir à tous et bienvenue donc dans les informés de France Info. Pendant une heure, nous allons décortiquer, analyser, décrypter l'actualité avec nos invités du soir. Bonsoir Laure Breton.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à Libération et vous croiserez le fer ce soir entre autres avec Alexandre Devecchio du Figaro. Bonsoir.
Bonsoir.
Autour de la table également le politologue et président de l'atelier de communication JCGA, Jean-Christophe Gallien. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Romain de Salle de la lettre d'information Time to Sign Off, TTSO. Bonsoir.
Bonsoir.
Des informés encore un peu en bleu ce soir. Qu'avez-vous pensé de la descente des Champs-Élysées au pas de charge, cette soirée au Crillon qui n'a pas eu lieu? Est-ce que c'est le couac qui gâche la fête? Et au-delà de la journée d'hier, qu'en est-il de l'impact de la victoire des Bleus sur le moral des Français? On reviendra longuement sur ce sondage au Doxa Denso Consulting pour France Info et le Figaro que nous vous avons révélé à 17h et qui montre que les Français se sentent plus fiers, sont plus optimistes, ont, paraît-il, plus le moral. Encore qu'on fait parfois dire tout et n'importe quoi à certains chiffres, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils n'aiment pas plus leur président. Emmanuel Macron, sur le front social également, avec les partenaires sociaux réunis à l'Élysée ce matin, il promet de changer de ton et de méthode, faut-il le croire. Et puis au-delà de nos frontières, un autre président fait encore des siennes, encore une fois, Donald Trump, qui fait de Poutine son ami et de l'Europe son adversaire, quitte à fâcher son peuple, on en parlera en fin d'émission. Bref, le programme est chargé encore une fois, alors on démarre tout de suite. Et on l'a donc vécu en direct hier soir sur France Info, le retour des héros, les Bleus à la maison, l'atterrissage à Roissy, le parcours en quart jusque sur les Champs-Élysées et puis la descente des champs extrêmement rapide, peut-être un peu trop d'ailleurs, pour les centaines de milliers de personnes qui s'étaient massées sur les champs à l'image de Sylvain venu de Bretagne.
Nous on a fait 550 km, on est venu de Lorient spécialement aujourd'hui, on a passé toute la journée sur les champs. Pour au final déjà une première déception sur les champs parce qu'ils sont passés vraiment vite sur les champs. Je sais pas, moi j'ai eu le temps de les voir 45 secondes. Et nous on voulait juste célébrer, on voulait voir la coupe, on voulait chanter avec eux, on voulait leur montrer qu'on est fiers de notre pays, on est fiers d'eux. Et là, la fête elle est gâchée ce soir.
Alors, fête gâchée, disait ce supporter. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous comprenez cette frustration, Jean-Christophe Gallien?
On peut la comprendre. Et puis quand on regarde les images, il y avait un effet assez saisissant. C'est-à-dire que si on compare 98 et 2018, on a des Champs-Élysées que cette année, on sont partitionnés, en compartimentés. Il y avait une image importante aussi, cette espèce de dispositif quasi militaire autour du car, découvert encore. Mmh. Peut-être que la prochaine fois, il ne sera même plus découvert en réalité.
Nord-coréen.
Exactement. Il y avait un effet saisissant. Alors en même temps, ça, c'est très déceptif. Et puis, le temps passé pour des gens qui avaient attendu très longtemps. Mmh. C'est clair qu'il y avait un message étrange, là, pour le coup, entre l'iconographie de la scène et puis finalement, ce qui était l'attente des gens. Mais en même temps, c'est plus la même période. 98, c'est plus 2018. Il s'est passé des événements. Imaginons un seul instant qu'à travers une descente au milieu de la foule, il se soit passé un accident. Le retentissement, l'impact,
un accident, en fait, tout ce qui ou autre chose,
je le dis de cette manière-là, de manière plutôt douce, en tout cas, et tout ça était inacceptable, et donc on est dans une zone de zéro risque absolu, c'est-à-dire on essaie de limiter au maximum, et voilà.
Et Romain Dessal, vous avez chronométré
la différence. Rendons au off-post ce qui était au off-post. Le off-post a effectivement regardé combien de temps le car avait descendu les Champs-Élysées en 98. Il avait pris 2 heures pour descendre les Champs-Élysées. Ils ont calculé qu'il avait fait du 0,9 km/h. Et cette année, il a pris 12 minutes, il a été 10 fois plus vite, il a fait du 9,5 km/h à descendre. Donc effectivement, on n'est pas tout à fait aux 40 km/h que rapportait un des témoins de la scène, mais enfin, on est quand même 10 fois plus vite. Oui.
Effectivement, c'est allé très vite. Laure Breton, vous disiez un bus nord-coréen.
Non, je parlais des policiers, du dispositif qui était très étonnant, parce qu'en fait, finalement, on voyait bien que derrière cette espèce de langue de bitume, enfin, de chaque côté de cette langue de bitume, il y avait énormément de policiers derrière les barrières pour contenir la foule, qui était là depuis le début de l'après-midi. Mais on a ajouté ces policiers qui couraient autour du bus.
En même temps,
c'était une image assez étrange.
Cet argument de sécurité, il explique selon vous la rapidité, toute relative, enfin la rapidité quand même.
Mais je crois qu'il reste surtout. Je me garderais bien de résoudre le mystère du crillon, parce que je crois qu'il y a
crillon,
une espèce de pataquès
ça,
entre la
aussi.
Fédération de football.
On en dira un mot après, peut-être au crillon. Mais...
L'Élysée et les autres. Mais en fait, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ils sont partis tard de Moscou. On peut comprendre qu'ils font la fête. Ils atterrissent tard. On ne sait pas ce qui se passe à l'aéroport. l'aéroport, ils y restent une heure. Donc en fait, tout prend du retard. Après, est-ce qu'il fallait qu'ils reviennent dans la foule alors qu'ils étaient en train de faire à l'Élysée? Moi, je sais pas, j'ai pas répondu. Je suis pas dans la tête de gens qui viennent d'être, qui ont tous les projecteurs braqués sur eux et qui sont en fait juste en train d'être tout à leur joie et qui ne sont pas en train de calculer
les
minutes
joie.
Qu'ils passent devant leur supporter.
Peut-être, mais enfin, on peut imaginer que ceux qui étaient là depuis 13h, 14h, des enfants, des familles entières, gens qui ont pris des journées de repos, Alexandre Devecchio.
Oui, mais je ne suis pas sûr que l'équipe de France soit responsable. Hein. Je pense que c'est l'État qui a effectivement pris des mesures de sécurité qui peut-être s'imposaient. La veille, en plus, il y avait eu un certain nombre de casses. Le bus est arrivé plus tard, donc il commençait à être tard sur les Champs-Élysées. Donc il y avait tout ça qui s'ajoutait à un contexte qui, effectivement, n'est plus le même depuis 1998, où il y a eu des vagues d'attentats, etc. Le souvenir peut-être du dernier Euro, où on avait été en finale et le lendemain, le 14 juillet, avait été ensanglanté à Nice. Donc je pense qu'il y avait beaucoup de bonnes raisons pour que ce bus aille assez vite. Peut-être
et quand on dit qu'il fallait qu'il arrive à 20h pour les 20h, que les joueurs soient dans la cour d'Élysée pour les 20h de télé,
c'est autre chose, mais je crois que c'est vraiment les raisons de sécurité qui ont primé. Enfin, c'est ce que disent mes collègues spécialistes du Figaro, que c'est la préfecture qui a pris des mesures de sécurité. Donc, dans ce cas-là, c'est une bonne chose, mais peut-être il aurait fallu prévoir un autre dispositif, pas forcément remonter les Champs-Élysées en quart, je ne sais pas, prévoir une estrade ou autre chose. Mais là, la sécurité, je dois primer.
Jean-Christophe. C'est peut-être finalement la faute d'Emmanuel Macron. Encore une fois, c'est ce qui explique peut-être les mauvais chiffres. C'est-à-dire que finalement, il les a gardés, il les a fait venir très vite pour le 20h. Je pense qu'effectivement, vous avez raison, le 20h en direct sur le perron de l'Élysée, ou en tout cas du côté jardin, c'était quand même un bon média planning pour le coup. Et là, on a bien vu qu'il s'était dépêché de se déshabiller, de se mettre en t-shirt, puis aussi de se rhabiller très vite et d'arriver à l'Élysée très rapidement. Donc on peut imaginer effectivement qu'il y a une petite pression côté Élysée.
Et puis après, il y a eu ce couac du crayon sur peut-être lequel on peut revenir dans quelques instants, dans la suite des informés sur France Info, juste après l'essentiel de l'info rappelé en 1 minute 30 par Emmanuel Grabé, puisqu'il est déjà 20h10.
Ils sont accusés d'avoir aidé une vingtaine de migrants à passer d'Italie en France. 4 personnes sont renvoyées devant le tribunal correctionnel dans les Hautes-Alpes. Elles seront jugées en novembre prochain. Une centaine de personnes se sont rassemblées aujourd'hui en soutien devant la gendarmerie où les 4 personnes étaient en garde à vue. À Nantes, la préfecture demande désormais à la justice administrative l'autorisation de démanteler un camp de réfugiés installé en plein centre-ville. La maire de la ville, Johanna Roland, a refusé il y a quelques jours de procéder à cette évacuation. Son discours était très attendu, considéré comme le plus important depuis la fin de son mandat. Barack Obama s'est exprimé aujourd'hui à Johannesburg à l'occasion du centenaire de la naissance de Nelson Mandela. Il s'en est pris à mot à peine couvert à son successeur Donald Trump. Et puis la Serbie ne pourra adhérer à l'Union européenne que si elle respecte un certain nombre d'exigences. C'est ce que dit aujourd'hui Emmanuel Macron. Il demande notamment la normalisation de ses relations avec le Kosovo. Pour le président français, l'Union doit se réformer avant tout nouvel élargissement. La date de 2025 a été avancée pour l'entrée de nouveaux pays.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Nicolas Creusel.
Alors on parlait de ce timing très serré hier pour les Bleus qui sont arrivés dans la cour de l'Élysée quelques minutes avant le début du journal de 20h, mais l'autre frustration de cette soirée, c'était aussi ces supporters qui ont attendu, espéré voir les Bleus au balcon du prestigieux hôtel Palace Parisien, le Crillon. Le chargé de presse de l'Élysée, Philippe Tournon, patron de la communication des Bleus, nous a dit sur France Info que jamais il n'avait été question d'un passage au Crillon. Le Crillon dit qu'ils avaient préparé quand même une petite sauterie pour les Bleus. Bref, qui dit vrai, que s'est-il passé? On ne sait pas, mais ça fait quand même mauvais genre, non, Jean-Christophe?
Encore du retard, là, c'est pour le coup. Là, ils ont préféré rester à l'Élysée, semble-t-il, la version... Là, pour le coup, est concrètement vérifié. Et là, ça a largement prolongé le dîner. Et je crois qu'il était tard, effectivement. Tous ne sont pas arrivés au Crillon. Ouais. Tous avaient semé des fausses pistes dans Paris. C'est-à-dire qu'ils avaient réservé des hôtels, des endroits de soirée, des endroits de dîner. Je crois qu'ils n'avaient pas très envie. Et je ne sais pas d'où est venu. Est-ce que la fédération avait officiellement annoncé une présentation? Je ne crois pas. Je crois que c'est une espèce de rumeur qui a enflé. Mais ils ne se sont pas ajustés. Ils ne sont même pas ajustés, ni les uns ni les autres.
L'or breton, quand même, c'est frustrant.
Ah oui, c'est frustrant. Moi, j'étais pas sur la place de la Concorde, mais j'étais hier après-midi vers 14h rue de Rivoli et je voyais arriver des masses de gens et beaucoup de familles avec des enfants. Mmh. Et je me dis qu'effectivement, ils avaient peut-être choisi la place de la Concorde pour ne pas aller sur les Champs. Je pense qu'effectivement, il y avait beaucoup de déceptions. Sur l'origine du Patakès, je sais pas. Il y a un article qui dit qu'ils seront au crayon et TF1 fait quand même largement monter la sauce pendant 2 heures en les attendant avec quelqu'un qui est à l'intérieur des suites avec un drapeau bleu, blanc, rouge en disant le champagne est là pour eux.
Et il y a l'hôtel qui dit qu'ils avaient quand même préparé quelque chose.
Et l'hôtel qui dit qu'il a préparé quelque chose. Alors, je ne sais pas qui avait besoin ou envie de cette pub. Je ne sais pas qui a mangé la consigne. Je sais qu'effectivement, ça a l'air d'être assez spontané quand les footballeurs disent « on peut rester manger ». Voilà, ils sont à l'Elysée, on reste manger, on leur prépare un truc.
Allez, voilà, ça part en chute. Bon, allez, on reste alors. France Info révèle ce soir quand même les conclusions d'un sondage, au-delà de ce petit couac d'hier. Sondage Odoxa d'Enso Consulting sur l'impact des Bleus et de leur victoire. Sondage réalisé selon la méthode des quotas sur un échantillon représentatif de 1005 personnes interrogées hier lundi et dont les grandes lignes sont résumées par Gaël Slimane, le patron d'Odoxa, qui était sur France Info tout à l'heure. On l'écoute et on en parle après.
Il y a déjà un effet ballon rond spectaculaire, invraisemblable même. Un quart de la population française est descendue dans les rues au soir de la victoire pour fêter ça un peu partout
dans les
villes.
Un Français sur 4 dans les rues.
Un Français sur 4, un jeune sur 2. C'est complètement fou. Et quand on regarde l'impact sur la confiance qu'ont les gens, sur leur optimisme en général, là aussi, on est quand même dans la dinguerie, si vous me passez l'expression. Ce n'est que du football, j'adore ça. Mais quand même, on a 60% de Français qui se disent optimistes. Après la victoire, il n'était que 40% il y a 6 mois. Donc tout va bien dans tous les domaines.
Romain Dessalles, de TTSO, vous qui parlez peu de sport sur votre newsletter, voire pas du tout, ça vous donne pas envie de changer un tout petit peu l'éditorial quand vous voyez cet engouement?
Ah bah on est très 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 au-delà du sport. On est dans quelque chose d'absolument hallucinant. Un jeune sur deux, j'en reviens absolument pas. Une personne sur quatre en France, on est sur un effet absolument massif. Alors maintenant, on verra quelles sont les traductions concrètes de cette affaire. On les verra. Le sondage en parle. On va en parler, j'imagine, sur Emmanuel Macron.
Mais sur le moral des Français, quand on nous dit par exemple, je crois d'ailleurs que Jean-Christophe Gagnon a une lecture un petit peu différente, il y a deux manières de voir les choses. Soit on dit deux tiers des Français, pour deux tiers des Français ça ne change rien, mais soit on dit il y a quand même un tiers des Français qui dit « Oh ben j'ai meilleur moral parce que les Bleus ont gagné, Jean-Christophe Gagnon ».
Moi j'ai du mal à croire aussi que structurellement, la magie de la Coupe du Monde, il y a une vraie magie, une magie pour la Russie qui organise un événement incroyable, pour Poutine qui est quelque part, qui l'a amené même aujourd'hui à avoir une relation particulière avec le président des États-Unis, mais il y a une magie aussi en France. Effectivement, parce que on a gagné, les joueurs ont un comportement assez exceptionnel, très exemplaire en particulier, on verra, il y a des effets là-dessus. Et donc, moi ce qui m'impressionne, c'est l'effet de foule dans la rue. C'est ce qu'a dit Romain tout de suite. C'est-à-dire que pour le coup, là, ça me surprend largement.
Et un
effet de foule qui,
en plus, est
très teinté, très homogène. C'est-à-dire que, nous en parlions tout à l'heure, il y a un effet bleu, blanc, rouge. Il y a un effet vive la France qui est très prégnant et très fort. Maintenant, moi, je suis un peu moins certain, encore une fois, de l'effet durable, sur notamment le moral. Il y a des éléments même chiffrés dans le sondage que je comprends que Odoxa ne veulent pas forcément traduire de cette manière-là.
Lesquels alors?
Et bien notamment sur le fait, alors Macron, il l'assume complètement, c'est un effet politique, on peut le comprendre,
ça,
c'est intéressant.
Macron, on verra tout à l'heure.
Voilà, il le voit. Et autour de l'effet Macron, il y a un petit bémol sur est-ce que ça changera quelque chose pour vous? On sent bien que la majorité des gens disent non. Oui. Et est-ce que finalement vous êtes plus confiant pour l'avenir de la France? Là aussi, une majorité qui dit non.
En l'espèce, les gens se plantent pas, parce que si on regarde le passé, enfin si on regarde l'exemple de 1998, en 1998, la croissance au troisième trimestre, donc le trimestre qui suit directement la Coupe du Monde, la croissance baisse au troisième trimestre et elle baisse au quatrième par rapport à la troisième. Donc il y a pas d'effet. Il faut arrêter cette histoire d'effet Coupe du Monde, etc. Les gens prennent la Coupe du Monde manifestement pour ce que c'est.
Qu'est-ce que vous retenez, vous, Alexandre Devecchio? Cette foule d'ailleurs avec 27% des hommes dans les rues, mais aussi 20% de femmes. Donc ça veut dire, c'est pas... non mais quand on regarde les chiffres, c'est marrant parce qu'on nous dit aussi, évidemment à Paris, à Marseille et à Lyon, mais aussi dans des villes moyennes, homogènes, des jeunes, des plus âgés.
Je crois que je retiens la soif d'unité et de cohésion nationale. Je crois qu'on est un pays extrêmement fracturé, socialement, culturellement, et que là, il y avait un profond désir, finalement, de la population de se retrouver. Moi, je crois qu'il y a aussi un sursaut patriotique. On disait que la France de 2018 n'était pas la même que celle de 98. C'est vrai qu'on a vécu de grands drames ces dernières années, et moi, je vois ça comme un retour de la nation. Effectivement, le drapeau français, le bleu, blanc, rouge, était beaucoup plus présent qu'en 98. Donc, je crois qu'il y a un effet psychologique. Je ne sais pas si ça va être durable ou pas, mais je crois que les Français avaient besoin de s'affirmer en tant que peuple. Après, il y a toujours un bémol là-dessus, c'est que je vous parlais des fameuses fractures françaises. Malgré tout, on voit qu'on ne peut plus faire la fête tranquillement aux Champs-Élysées, qu'à partir de 23h, les braves gens doivent s'en aller pour faire place aux pilleurs. Je trouve ça, malgré tout, assez déplorable. Donc finalement, il y a un côté doux amer là-dedans, avec d'un côté le patriotisme et de l'autre les fractures de la société qui vont pas disparaître.
Alors Breton, est-ce que ces bleus rendent les irréductibles Français toujours grincheux d'un seul coup,
mais
euphoriques
et
joyeux?
Ils sont éminemment aimables. Ils viennent de
les
faire
bleus.
Un mois. Les bleus, oui, les bleus.
Parce les que tous les Français aussi. En général, c'est pas sûr.
C'est une déclaration d'amour. Non, mais c'est incroyable. C'est les Français. C'est la première équipe en Nice Now ou en 2000. Enfin, un peu plus tard, on n'avait pas les réseaux sociaux. Voilà, Nice Now, évidemment, c'est.
Non, mais Nice Now, c'est autre chose. On est en
mais il n'y avait pas les réseaux sociaux. Là, on a vécu avec eux. Enfin, je veux dire, tout le monde est beaucoup des jeunes français.
Ce que je veux dire, c'est qu'on communique plus facilement.
Moi, j'étais sur Instagram. Ah oui. Je les ai regardés vivre dans les vestiaires. Je les ai regardés faire les idiots. Ils peuvent faire n'importe quoi. On les trouve rigolos. Il y a un truc qui prend, qui, à mon avis, les dépasse totalement et qui vient. Alors, on me raconte, ça vient d'une blague. Le Vive la République, le Vive la France, le Vive la République, c'est un quelqu'un du staff de Didier Deschamps qui en faisait une blague. Et en fait, eux, ils concluaient toutes ces interventions avec Vive la République. Griezmann le reprend, Pogba le reprend. Ça les dépasse complètement, en fait. Ouais. Ils ne représentent qu'eux-mêmes. Mais les Français ont envie d'entendre ça. Et effectivement, je suis d'accord avec Alexandre Devecchio. Il y a une forme de résilience. Elle est éphémère. Ce mouvement est joyeux. Il est festif. On en profite pour ce qu'on est. Romain Dessal disait, pour ce que c'est. On prend la Coupe du Monde pour ce qu'elle est. On ne voit pas en ça un Graal ou une martingale absolue qui va résoudre tous les problèmes.
Jean-Christophe Gallien, en quelques secondes, vous, le politologue que vous êtes, quand l'Institut d'Oxa nous dit que le boom de confiance a pris 20 points, on était 40% optimistes et on est 62% optimistes en 3 semaines. C'est possible, ça ?
Ils le disent, ils le mesurent. Il y a forcément un effet de cette balle extraordinaire. Encore une fois, ça, c'est une magie des grands événements sportifs.
C'est le lendemain de la victoire.
Moi, je crois qu'il y a une dimension. Pour le coup, autant j'étais critique sur l'aspect structurel tout à l'heure des effets de confiance, autant il y a un effet structurel, c'est la capacité, effectivement, de se démontrer comme un peuple, en l'occurrence.
C'est fou.
Ça peut pas, malgré les fractures, malgré les sécessionnismes, malgré les séparatismes que ce pays vit, comme tous les pays aujourd'hui dans notre espace géopolitique, tous, encore une fois, il n'y a pas qu'en France. Eh bien là, il y avait une vraie réalité, et je pense que ça, c'est une réalité.
20h20 sur France Info, on voit dans quelques instants si Emmanuel Macron profite, lui aussi, de cette victoire des Bleus. C'est aussi un des aspects du sondage. On y revient juste après l'essentiel de l'info avec vous, Emmanuel Grabé.
Les actionnaires d'Alstom valident le rapprochement avec le groupe allemand Siemens, annoncé il y a un an et qui pourrait être effectif début 2019. Ce projet fait depuis quelques jours l'objet d'une enquête approfondie de la Commission européenne qui craint une atteinte à la concurrence sur le marché des trains et de la signalisation ferroviaire. La vidéo salit notre profession et on n'avait pas besoin de ça. Réaction chez nos confrères de France Bleu Nord, d'un syndicat de surveillants pénitentiaires de la prison de Sequedin près de Lille. Réaction après la diffusion d'images d'une surveillante stagiaire en plein acte sexuel avec un détenu. Une enquête a été ouverte par l'administration pénitentiaire. Le détenu a été transféré dans un autre établissement. L'ancien Premier ministre britannique Tony Blair appelle à un deuxième référendum sur le Brexit. C'est un bazar total, dit-il, en parlant de la gestion du gouvernement de Theresa May. Il qualifie de bouillie son projet d'accord avec l'Union européenne. Et puis une première victoire française sur le Tour de France. Julien Alaphilippe s'est imposé aujourd'hui au Grand Bornand. Après plus de 158 km de montagne parcourues depuis Annecy, le Belge Greg Van Avermaet est toujours maillot jaune.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Nicolas Creusel.
Les Bleus font du bien au moral des Français, à la confiance, à l'image de notre pays, à la fierté de tout un peuple. Voilà ce qui ressort de cette enquête au Doxa Denso Consulting pour France Info. On en parle avec nos informés du jour depuis quelques minutes. Laure Breton de Libération, Alexandre Devecchio du Figaro, le politologue Jean-Christophe Gallien et Romain Desalles de la lettre d'actualité Time to Sign Off. Mais il y a quand même un homme qui, d'après cette enquête, ne devrait pas pouvoir surfer trop longtemps sur la vague bleue. C'est Emmanuel Macron, Gaël Slimane, le patron de Doxa.
On a testé sa popularité exactement dans les mêmes termes que notre baromètre de popularité mensuel. La dernière fois, c'était le 26 juin dernier. On l'a retesté lundi, après la victoire. Et alors qu'il s'est dépensé sans compter, le président, quand même, auprès des joueurs, dans toutes ces manifestations de joie, eh bien, il ne progresse pas. On a toujours 6 Français sur 10 qui estiment que ce n'est pas un bon président de la République. L'érosion que nous constations, eh bien, elle n'est pas contredite. Il n'y a pas d'effet de rebond comme il y en avait eu un pour Jacques Chirac.
Alors, est-ce que vous êtes surpris par cette espèce de stagnation de cette confiance qui s'érode pour le chef de l'État, Alexandre Devecchio?
Non, en fait, j'y vois 3 raisons. D'abord, si on compare avec Jacques Chirac, on était en cohabitation, donc il n'était pas directement aux manettes et il pouvait apparaître pas forcément comme instrumentalisé justement la Coupe du Monde. Et je pense que c'est peut-être la deuxième raison pour laquelle ça prend pas. Effectivement, il s'est dépensé sans compter, mais il y a peut-être l'idée chez les Français qu'il en a fait beaucoup, on l'a vu dans les vestiaires notamment, et qu'il tente de récupérer l'événement. Et en plus, je crois qu'il tente de le récupérer en se trompant de récit. En fait, si cette équipe de France est populaire, je crois, c'est parce qu'elle a été extrêmement collective. On n'a pas eu de stars, d'individualité. On a eu 11 hommes, même 23, qui se sont dépassé pour le maillot. Et je crois qu'Emmanuel Macron veut faire le récit d'une France efficace, d'une France de winners. Et il apparaît finalement en décalage avec l'équipe de France où il n'y avait pas d'un côté les premiers de cordée et ceux qui ne sont rien, mais où il y avait une forme de collectif. Et donc, je crois que pour toutes ces raisons, c'est pas si étonnant que ça qu'Emmanuel Macron stagne. Puis il y a la réalité du pays avant tout.
C'est quand même la première,
première raison.
Mais je vous voyais, Jean-Christophe Gallien, faire la grimace quand Alexandre Devecchio évoquait
justement le fait qu'il n'y avait pas de star. Un peu sévère, parce que pour le coup, il a raison quand il décrit la comparaison avec Jacques Chirac. C'était au mieux un roi d'Espagne, au pire une reine d'Angleterre à l'époque. Je veux dire, c'est quand même pas, en l'occurrence, Macron est aux affaires, clairement aux affaires. Et c'est vrai que moi, je pense que le dispositif de communication qui a été mis en place autour de l'équipe de France, qui a attendu, il a attendu les demi-finales quasiment pour aller là-bas, il a fait une entrée en matière. On peut pas dire que c'était trop lourd, trop affirmé. C'est à la limite de ce que font, et c'est dans l'ordre des choses de ce que font les joueurs. Tout à l'heure, vous disiez que c'était en permanence. On est comme dans les yeux, dans les bleus, en permanence et en live. C'est-à-dire qu'on peut pas imaginer ce genre d'image aujourd'hui. La réalité, c'est qu'il il s'est glissé là-dedans, qu'il a affirmé le sien, mais ses comptes à lui sont tellement faibles par rapport aux autres que de toute manière, c'est plutôt à travers les autres qu'on a vu Emmanuel Macron et pas à travers son propre média. Et donc, je trouve ça. Moi, je pense que ça freine sa baisse. Et pour le coup, ça freine sa baisse.
On peut pas lui enlever la sincérité de sa passion pour le foot. Ça, on est tous d'accord.
Je pense que là, pour le coup, c'est pas mal joué. Ça freine et ça lui donne finalement une sorte d'été tranquille avant une rentrée qui va être plus sévère. Parce que les fondamentaux, alors pour le coup, t'as tout fait raison. C'est d'un côté ceux qui sont déçus par l'absence de résultats, tous ses fans, tous ses supporters à lui, et de l'autre côté l'injustice pour les autres qui considèrent que c'est de l'ennemi de leur cause. En fait.
Alors Breton, Libération.
Je suis un peu dubitatif sur le terme récupération. Je pense que de toute manière, en 98, la récupération elle-même, ça n'existait pas, on n'en parlait pas. Il y avait un président qui était effectivement pas complètement aux manettes. Un président qui aimait pas le foot.
Alors pour le coup, il aimait pas le foot. D'ailleurs, on se souvient qu'il dit la Coupe de France, alors que c'est la Coupe du Monde quand même.
Le nom des joueurs. Enfin bon, il se prend au jeu. On est d'accord. Mais il y voit pas forcément un intérêt. Et là, je trouve que, en fait, je reviendrai aussi encore sur cette société de l'information qui se diffuse tout le temps. C'est qu'en fait, les gens ont travaillé pour lui, d'une certaine manière. Je veux dire, on l'a vu dans les stories Instagram des joueurs. On l'a vu. L'Élysée ne voulait pas, après la demi-finale où, effectivement, Macron faisait un peu le fou, là, à côté du roi de Belgique, qui lui faisait la tête. L'Élysée ne voulait pas de photographe dans la loge présidentielle pour la finale. Il se trouve que c'était le photographe de Vladimir Poutine, qui prend la photo, qui est plutôt connu pour ses portraits très hagiographiques de Vladimir Poutine, et qui prend cette photo incroyable, là, comme un arbalétrier Et qui la vend à l'AFP. Et après, donc, elle fait le tour de la Terre, elle se retrouve à la une de tous les journaux. Mais l'Élysée avait un peu, avait plutôt peur de cette utilisation des photos. Il ne voulait pas de photos. La FIFA avait respecté. Mm-hmm. C'est le photographe de Poutine qui diffuse ce cliché qui passe à la postérité. C'est un peu... Ça se fait au-delà d'eux.
Romain de Salles, cette photo, vous l'avez vue, forcément.
Je trouvais que votre interprétation de la raison pour laquelle Macron... c'est pour laquelle ça ne passait pas avec Macron.
Parce vous parlez à Alexandre.
Oui, à Alexandre, pardon. de Vecchio. Parce que Macron est très sur l'individu et sur le winner, etc. Et là, c'est une histoire d'équipe. Je trouve que c'est une explication hyper séduisante. Et moi, je trouve ça très convaincant. Ce que je me dis aussi, c'est que... On regarde cette Coupe du Monde sous l'angle de la communication. On se dit, est-ce que Macron a essayé de la récupérer, etc. Avec la grosse différence avec 98, c'est que c'était un peu une surprise. On n'avait jamais, il n'y avait pas d'histoire de victoire à la Coupe du Monde. Effectivement, Chirac n'était pas du tout préparé à ça. Il confond la Coupe du Monde, la Coupe de France, les joueurs et les Coupes Zidane en même temps que pas mal de monde d'ailleurs, etc. Donc, on est quand même en train de regarder le truc sous l'angle de la communication et de la communication Macron. Donc c'est juste ma seule réflexion.
Puis on est un petit peu obligé aussi de comparer avec 98 avec Chirac parce qu'on vit pas tous les jours une victoire de Coupe du Monde. Et ça fausse peut-être aussi notre regard, cette comparaison obligatoire.
Ouais, mais je crois qu'aussi la place du foot a largement progressé à la fois dans notre espace sociétal, social, économique. Je veux dire, la place des joueurs aujourd'hui, on en parlait d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Je veux dire, si vous cherchez des influenceurs... Ils sont pas sur le terrain politique, ils sont moins sur le terrain médiatique, peut-être même plus dans le terrain culturel, ils sont là. Et ils sont encore plus là aujourd'hui après cette performance-là. Donc je crois qu'on est, et notamment par rapport à des générations, appelez les Linksters, appelez les Millennials, ils sont, voilà, c'est ce que aussi l'Élysée, ce que Macron peut vouloir chercher. Et c'est normal. Il est en préparation d'une élection 2022. Il y a rien de moche à dire qu'il veut être sur un événement qui tenait, parle de la France, parle de l'UMSO et de la réussite.
De la France qui gagne et de la France qui est jeune.
Il ne cesse de répéter ça. Il ne cesse de dire on a gagné les Jeux. Chaque victoire sportive est un événement. Donc voilà.
Alors, attends, 10 secondes.
Non, mais on a aussi changé d'équipe. On n'est plus sur les bad boys, on est sur des gens qui sont qui se savent regarder et donc qui sont assez bien élevés quand même et qui
sont bien briefés aussi,
ils sont peut-être bien briefés, peut-être. Donc finalement ça les rend encore plus bankable pour un président qui les trouve utiles pour son image.
Et on verra si ça peut servir le chef de l'État qui a reçu aujourd'hui les partenaires sociaux à l'Élysée. Autre ambiance, on y revient dans la deuxième partie. Désinformé, c'est dans quelques instants.
France Info Météo avec CIC et vous, pour ne pas avoir à choisir entre l'humain et le digital. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Et pour l'instant, trouvez Elodie Calac pour les prévisions de Météo France.
Des orages pour le sud-ouest demain, des Pyrénées vers la Vendée, le Berry, le Massif central et le Languedoc-Roussillon. On se réveillera sous le soleil. On aura un peu plus de nuages près de l'océan avec parfois une ondée. L'après-midi, ça deviendra nuageux sur ces régions, instable avec des ondées, des orages sur les Pyrénées puis sur l'Occitanie avec parfois de la grêle, du vent. Ailleurs, on profitera largement du soleil, à peine quelques grisailles sur les côtes de la Bretagne au Pas-de-Calais le matin. Il fera 9 à 18 degrés le matin jusqu'à 22 pour le sud-est. L'après-midi, plus de chaleur, 22 degrés au Havre, 27 à Lille, 28 à Nantes, 29 degrés à Paris, 31 à Colmar et à Bourges, 33 à Toulouse, à Valence et 34 degrés à Nîmes.
Élodie Calac, Météo France. Merci d'écouter France Info, il est 20h30.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et à 8h30, l'essentiel de l'info, c'est avec Emmanuel Langlois.
Et ces nouvelles suppressions de postes au sein du groupe Mullier, après Pimki, la société Apichig va supprimer 466 emplois et fermer près de 90 magasins des marques Bisby et encore Jules d'ici à 2020-2021. La direction du groupe l'a annoncé ce matin en comité central d'entreprise au siège à Roubaix dans le Nord. Les représentants syndicaux depuis sont révoltés, à l'instar de Nadia Ferrante, elle est déléguée force ouvrière du groupe Mullier.
C'est très alarmant parce que l'entreprise, c'est pas d'aujourd'hui, ça va mal depuis au moins 9 ans. Donc ils n'ont jamais réagi en soi. Ils ont fait des choix stratégiques que nous-mêmes nous avons dénoncés, que ce soit sur le marketing, que ce soit sur la qualité du vêtement et surtout sur le marché qui commençait à s'étouffer, le marché du prêt-à-porter masculin dans sa globalité. Ce qui me désole encore le plus, c'est qu'il y a encore ces personnes-là qui ont été dans des choix stratégiques de l'entreprise, sont toujours en poste, et que il y a des salariés qui n'ont pas demandé justement à se voir partir de l'entreprise. On va les remercier gracieusement en disant maintenant on a décidé de faire un plan social. Et ça, je trouve que c'est une des façons de faire aujourd'hui qui m'horripile parce que on aurait pu faire quelque chose bien avant si effectivement ben, on était écouté. On a attendu, on a attendu, on a attendu. Et derrière, ben, voilà, on arrive à ce processus.
C'était Nadia Ferrante, déléguée force ouvrière du groupe Mullier. Un sommet social à l'Elysée, les syndicats et le patronat reçus par Emmanuel Macron et pour la première fois tous ensemble, ils ont salué un changement de ton du chef de l'État, plus disposé selon eux à redonner une place aux partenaires sociaux, mais sont restés vigilants à l'approche d'une rentrée sociale chargée. Ils avaient permis l'entrée en France d'une vingtaine de migrants. C'était le 22 avril, lors d'une marche à Briançon dans les Hautes-Alpes. Quatre militants seront jugés devant le tribunal correctionnel de Gap le 8 novembre prochain. À l'étranger, Israël renforce encore le blocus sur la bande de Gaza. L'État hébreu affirme vouloir lutter contre les cerfs-volants incendiaires lancés ces derniers mois depuis l'enclave palestinienne contrôlée par le mouvement islamiste Hamas. Les États-Unis rejettent d'un revers de main les demandes européennes de ne pas sanctionner les entreprises présentes en Iran. Washington appelle au contraire à ne pas encourager le commerce avec Téhéran après avoir refusé la poursuite de l'accord sur le nucléaire iranien signé par Barack Obama. Il se veut d'ailleurs un message fort contre le protectionnisme de Donald Trump. L'Union européenne et le Japon ont signé à Tokyo un vaste accord de libre-échange. Il prévoit notamment que 85% des produits agroalimentaires de l'Union européenne pourront entrer au Japon sans aucun droit de douane. Et puis la première victoire française cette année sur le Tour. Julien Alaphilippe remporte la 10e étape, la première de montagne au Grand Bornand. Il décroche au passage le maillot à poids du meilleur grimpeur. Le Belge Greg Van Avermaet conserve le maillot jaune. Demain, 11e étape, 108 km entre Albertville et La Rosière.
20h33, c'était Emmanuel Langlois.
20h, 21h, les informés.
Nicolas Creusel.
Et c'est la deuxième partie de des informés sur France Info, toujours avec Laure Breton, journaliste à Libération, Alexandre Devecchio, journaliste au Figaro, Figaro Magazine et Figaro Vox, Jean-Christophe Gallien, politologue, professeur associé à Paris en Sorbonne et président de l'agence JCGA, et Romain Dessalle, fondateur de la newsletter d'actualité Time to Sign Off, TTSO. Changement de décor, changement d'ambiance, vous êtes d'accord avec moi, à l'Elysée, entre les visiteurs d'hier soir et ceux de ce matin, on est passé des bleus de l'équipe de France aux représentants syndicaux et patronats, avec à la sortie ce compte-rendu version Laurent Berger de la CFDT.
On a eu une longue réunion avec le président de la République dans un format qui était, c'est vrai, inédit, qui permet à la fois de rentrer dans le fond des sujets et d'avoir une forme de franchise. J'ai senti, on a senti sans doute à plusieurs autour de la table, qu'il y avait une volonté de revenir à, selon les termes du président de la République, une république contractuelle, et que la France devait revenir à une forme de dialogue entre organisations syndicales et patronales et État. Donc on verra la rentrée, mais je pense que c'était utile d'avoir ce type de rencontre.
Voilà, Laurent Berger, après donc cette rencontre à l'Élysée ce matin, sur la forme, on va parler de la forme d'abord, sur le ton, sur la méthode, le président de la République qui veut passer à une autre séquence. Il est temps, c'était nécessaire, Laure Breton.
Mais j'ai l'impression, en écoutant Laurent Berger, que c'est un peu comme les Français avec les Bleus. Ils ont envie d'y croire, les syndicats. On sort d'un conflit majeur à la SNCF. Ils ont les agendas des différents syndicats, pour l'instant, ne sont pas pris en compte par l'exécutif. Ils sont tous venus d'ailleurs avec des choses très différentes dans leur musette. Force ouvrière qui veut parler du burn-out, la CGT qui veut parler des contrats courts, la CFDT qui veut remettre la lutte contre l'exclusion et la pauvreté au centre du truc. C'était un petit peu bric-à-brac. Alors, ils ont envie d'y croire. Ils vont jouer le jeu, mais comme on disait tout à l'heure, la rentrée, elle va être difficile. On va vers la réforme de l'assurance chômage, la réforme, on va rentrer dans le dur avec la réforme des retraites. Je salue un climat fond, qui peut changer. Je pense que sur le fond, tout le monde est toujours dans les starting blocks. C'est toujours la différence entre le structurel et le conjoncturel.
Sur le fond, on verra rien changer, effectivement, que les dossiers chauds risquent de s'accumuler. Mais sur la forme, est-ce qu'au moins, si Emmanuel Macron tient cette promesse, ça peut changer les choses, Alexandre Devecchio? Parce qu'on a senti quand même les syndicats, les corps intermédiaires, se sentir un petit peu méprisés.
Je pense que les deux ont en fait besoin de cette évolution. Les syndicats, parce que ils ont pris cher, entre guillemets, et qu'on est quand même dans un contexte de décomposition qui touche y compris les corps intermédiaires. Et Macron, jusqu'ici, a tiré avantage de ça. Hein. Je pense qu'il en a fait même un système, avec notamment un gouvernement où il n'y avait pas de poids lourd politique. Il a essayé d'atomiser ces corps intermédiaires. Ça pousse à un avantage quand Macron est fort, mais c'est un désavantage quand il est un peu plus faible, comme maintenant au bout d'un an de mandat où il se retrouve du coup en première ligne. Donc je pense que Macron, sentant qu'il va se retrouver en première ligne un peu plus affaibli, a besoin de négocier. Et de l'autre côté, les syndicats sont tellement faibles que pour relever un peu la tête, ils ont aussi eux besoin de jouer le jeu.
Romain de Salles, un bulldozer Macron qui a passé les 12 premiers mois à réformer, une réforme par semaine quasiment.
Exactement, oui. C'est d'ailleurs, on peut se demander si Macron est pas en train de devenir lui-même un président normal, exactement ce qu'il voulait pas être. Mais ce qui me fait dire ça, c'est la phrase de Asselin de la CPME qui dit et qui prête ce propos au président de la République. Il lui dit. Qui leur aurait dit, dans la première année de mon mandat, il fallait débloquer certaines situations, je suis allé vite, et maintenant, alors, je l'assume, je vais passer à une autre séquence où je vais avoir besoin de m'appuyer sur les partenaires sociaux et sur les corps intermédiaires. Donc c'est un peu... On verra bien ce que l'avenir réserve, mais on peut l'interpréter comme un président qui est en difficulté, à l'heure actuelle, et qui revient un peu dans les chemins très tracés.
Plus traditionnels de comment on réforme un pays, c'est-à-dire en respectant un peu plus...
Oui, alors on verra, parce que je suis absolument d'accord avec vous, les syndicats ont pris cher.
Les syndicats ont pris cher. C'est la formule d'Alexandre Devecchio du Figaro.
Ils sortent d'un printemps laminé, et le MEDEF aussi. Hein, le MEDEF sort de sa campagne, très très remis en cause, etc. Donc personne n'est en position de force.
Mais si on prend l'exemple de la grève à la SNCF, par exemple, un calendrier de 3 mois pour rien, une mobilisation pour rien, une frustration terrible.
Mais surtout un échec de la convergence des luttes. Et c'est là où, quand on parle de rentrée sociale, il y a un truc quand même dans l'agenda de Macron, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de chantiers. Mmh. C'est ce que vous disiez. Il y a énormément de chantiers. Et ça peut être aussi une bonne technique, une bonne tactique pour Macron. Parce que multiplier les chantiers, c'est quand même rendre difficile une grosse mobilisation centrale sur laquelle les syndicats peuvent rassembler leurs troupes et vraiment bloquer une situation.
Jean-Christophe Galien.
Moi, je trouve que autant il a atomisé l'espace politique, et effectivement, malgré le mécontentement, malgré sa chute dans les sondages, il n'y a personne qui récupère finalement cette mauvaise opinion. Autant les syndicats, ils n'avaient pas attendu Macron pour prendre cher. Ils s'étaient mis cher tout seul et ils s'étaient très, très largement abîmés. Donc moi, je crois pas qu'il ait peur de ça.
Le système politique aussi. Hein.
Je crois, ouais, mais vraiment encore plus, de manière plus spectaculaire et plus durable, pour le coup. Et là, je crois que il le sait très bien. Et il se sent en position de force quand même politique, malgré ces sondages-là, parce qu'il n'y a pas de concurrence aujourd'hui, qu'il va avoir un tour européen où il va être effectivement un peu en difficulté, mais pas tant que ça, pas plus que ses adversaires sur ses bords. Moi, je crois davantage à quelque chose où il a un espace politique aujourd'hui qui a pivoté, en tout cas il a bougé. Il n'a pas besoin d'aller donner des gages, le virage social, ça j'y crois pas un seul instant, il n'a pas donné des gages là-dessus. Et par contre, utiliser du MEDEF jusqu'à la CGT des gens qui sont en difficulté par eux-mêmes, là c'est clair.
Virage social ou pas virage social, transition toute trouvée pour ce qui arrive juste après sur France Info dans Les Informés, juste après l'essentiel de l'info avec vous Emmanuel Grabé, il est 20h40.
Les Nations Unies, l'Union Européenne et maintenant les États-Unis, tous demandent l'arrêt des violences au Nicaragua. Les forces pro-gouvernementales répriment depuis plusieurs mois des manifestations hostiles au président Daniel Ortega. Une attaque à balles réelles est en cours contre les rebelles dans la ville de Masaya. Un membre du clergé catholique sur place évoque un massacre en cours. Un quartier de Montpellier bloqué pendant plus de 2 heures en fin d'après-midi. Des policiers ont été visés par des tirs dans la cité Jolie. Ils intervenaient pour une affaire de stupéfiants quand ils ont été pris pour cible, le tireur n'a pas été retrouvé. Il est toujours en garde à vue. Ce soir, le député La République En Marche, Thierry Soler, est entendu depuis ce matin à Nanterre. Il est soupçonné de fraude fiscale et de corruption. Son immunité parlementaire avait été levée la semaine dernière. Et puis les États-Unis, intraitables sur le dossier iranien, Washington aurait refusé, selon l'AFP, toutes les demandes de Paris, de Berlin et de Londres pour laisser travailler des entreprises européennes en Iran.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Nicolas Creusel.
Et les informés ce soir s'appellent Laure Breton de Libération, Alexandre Devecchio du Figaro, Romain De Salle de Time to Sign Off et Jean-Christophe Gallien, politologue et président de JCGA. On évoquait donc ce rendez-vous ce matin à l'Élysée avec les partenaires sociaux. 3 heures au lieu de 2, ça a duré longtemps, plus longtemps que prévu. Sur la forme, on l'a dit, il fallait renouer les liens. Reste à savoir maintenant si ce ne sont que de belles paroles ou si les promesses seront tenues. Et sur le fond, il y avait malgré tout des messages. Plusieurs, vous disiez, Laure Breton, et celui de Philippe Martinez de la CGT, c'était celui-là.
Nous avons assisté sur la question de la répartition des richesses. Je lui ai fait remarquer que, contrairement à ce qu'il avait dit au Congrès la semaine dernière, il y avait un gâteau, il était énorme, mais que certains en profitaient beaucoup, c'était les moins nombreux, et d'autres n'en profitaient pas du tout, c'était les plus nombreux. Donc la question de la répartition des richesses, salaire minimum, pension, minima sociaux.
Alors, voilà, l'agenda sera chargé hein, en septembre avec les retraites, le plan pauvreté, l'assurance chômage. Ça peut faire de potentielles bombes sociales. Vous disiez juste avant le rappel des titres, Jean-Christophe Gallien, que vous ne croyez pas, vous, à un virage social. Pourquoi ?
Je dis j'y crois pas électoralement parlant. Je pense que son marché politique aujourd'hui n'est plus là où il était quand il a lancé notamment sa campagne et les promesses de positionnement plutôt au centre-gauche ne seront pas tenus parce qu'effectivement son marché encore une fois politique est de l'autre côté. Là où il y a pour moi pour le coup un vrai marqueur potentiel dans les prochaines semaines, c'est sur le terrain sociétal. Davantage sur ce terrain effectivement où il peut aller chercher des voix côté gauche. Je ne crois pas du tout au virage social parce que je crois qu'il a montré là pour le coup qu'il en a rien. Il a voulu donner notamment dans le cadre de la réforme de la SNCF, il l'a donné bien très tôt que la lutte a duré.
Ce qu'il a lâché entre guillemets, il a lâché tout de suite
et qu'encore une fois, l'état de forme des syndicats et des forces sociales de ce pays n'est pas celui des Bleus, quoi.
Laure Breton, Libération.
Non, je suis un peu étonnée. Enfin, c'était très grandiloquent quand il dit « je veux lancer le nouveau contrat social du nouveau siècle qui s'ouvre ». Alors, on est en 2018, je trouve que ça fait un moment que le siècle est en train de s'ouvrir. Mais c'est ce troisième millénaire, ces appels un peu amphigouriques, c'est assez étonnant pour quelqu'un qui finalement ne change pas grand-chose. Je suis assez d'accord, ne change pas grand-chose sur le fond de ce qu'il fait.
Donc les syndicats ont intérêt à être vigilants.
Oui, faites ce que je fais pas. Parce que le plan pauvreté, on le reporte. Ouais. Le plan hôpital, on le reporte. Demain matin, on est supposé avoir des annonces sur les quartiers populaires et la politique de la ville au Conseil des ministres. Et on est
après
en train de comprendre
l'enterrement du
rapport Borloo, on est en train de comprendre qu'on va nous revendre des stages de troisième et des entreprises qui aideraient les fameux premiers de cordée. Je pense qu'il n'y a pas de volonté de changer quoi que ce soit sur le fond.
Romain De Salle, vous, votre regard ?
Je suis assez d'accord avec ça. On ne voit ni l'espace politique qu'il irait chercher, ni les grandes réformes. Enfin, on reste tous sur notre faim. Il manque quand même le grand volet social de cette politique, de ce mandat, et on le voit pas venir avec cette rentrée sociale.
Alors, il manque, dites-vous, et en même temps, vous dites qu'il n'y a pas d'espace politique. Il y a quand même des gens qui certainement souffrent dans ce pays, on le sait, il y en a, et qui aimeraient peut-être qu'il y ait quelque chose qui change quand même.
Ça, c'est certain, mais est-ce
ils comptent pas ces gens-là ?
Mais bien sûr que si, ils comptent. Mais est-ce que en revanche, pour Emmanuel Macron, c'est un calcul, enfin c'est la base politique qu'il pense pouvoir capter à l'heure actuelle et capter demain pour les européennes et les prochaines échéances. Je ne le pense pas.
Mais un pays réconcilié, réunifié, dans lequel tout irait bien, c'est peut-être plus facile pour se faire réélire après, non, Alexandre Delvecchio. Enfin, là, peut-être que je me mets à rêver.
Je suis pas sûr que facile en tout cas.
Je suis pas sûr qu'il mise là-dessus, hein, parce qu'il a été très nettement élu par la France qui allait bien, et on se disait peut-être qu'il va essayer de réconcilier les deux France. Il l'a pas fait du tout, donc il mise plutôt sur la division de ce qu'on appelle aujourd'hui la France périphérique, qui est plutôt majoritaire, mais qui est divisée politiquement. Donc voilà, je pense pas non plus qu'il va changer de politique, pas forcément pour des raisons de base électorale, d'ailleurs, aussi pour des raisons idéologiques. Je pense que Emmanuel Macron est libéral sur le plan économique, libertaire sur le plan sociétal, et ça va pas changer. Par contre, il est quand même conscient, s'il est pas tout à fait coupé des réalités, que c'est un pays où il y a un fort malaise qui même sans syndicat, il suffit d'une étincelle pour que il puisse avoir une opposition forte face à lui. Ça passera pas forcément par la rue, mais ça peut passer par un très mauvais résultat aux européennes, monter des populismes, etc. Donc, je pense qu'il se dit qu'il va avoir besoin, malgré tout, des syndicats, ne serait-ce que pour aller au bout de réformes très libérales qui, à mon avis, ne sont pas populaires. S'il n'y a pas d'opposition pour unir un fonds commun face à ces réformes, je ne suis pas sûr que la majorité des Français soit favorable à la casse du modèle social français. Donc, paradoxalement, je pense qu'il va utiliser les syndicats qui ont besoin d'exister pour aller jusqu'au bout de cette entreprise de déconstruction.
Quand la CGT s'inquiète sur les droits des chômeurs, par exemple, la CGT a raison de s'inquiéter, Jean-Christophe Gallien, vous disiez pas faux.
Je pense qu'effectivement, il y a une alliance qu'on a vue par ailleurs dans des temps plus anciens entre des syndicats mal en point et un gouvernement plutôt de droite, en l'occurrence affiché à droite, en l'occurrence exactement, où il y avait une alliance des intérêts parce que à la fois parfois économique, d'audience, de réalité, chacun.
Mais ça débouche sur quoi ça après ? On fait semblant, c'est de la posture.
Ça va déboucher si on. Et je suis assez facilement Alexandre sur le terrain d'une. Voilà, il n'a pas changé sur le terrain de sa structuration ni et politique. Et social, économique, et encore une fois, on en parlait sociétal, il changera pas, et on voit bien qu'il y a une trace qui est celle-là, c'est-à-dire que déconstruire, pour dire le mot gentiment, c'est un petit peu ce qui est à l'œuvre. Gentiment,
déconstruire le modèle social français.
Je pense que c'est d'ailleurs à la rentrée qu'on va se rendre compte que c'est quelque chose qui va être plus violent que prévu, c'est-à-dire que pour le coup aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de changements. On a vu des progressions pour certains, mais pas encore trop d'affaiblissements. Là, pour le coup, je pense que la rentrée...
Les droits des chômeurs, par exemple, le plan pauvreté, tout ça, c'est ça qui peut, en septembre, faire basculer le quinquennat Macron.
Et l'adaptation et l'ajustement dont il parle en permanence aux enjeux du siècle qui vient d'arriver, si on le suit, c'est celui-là.
Laure Breton.
Non, je voulais juste revenir aussi sur la perception que Emmanuel Macron a à la fois de son élection et de sa mission présidentielle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au premier trou d'air l'été dernier, il y a eu un trou d'air dans les sondages dès le mois d'août avec la suppression, enfin la baisse des APL, la suppression des emplois aidés. Ça avait commencé à un tout petit peu aller mal. Et je me souviens très bien d'avoir eu des gens de l'Élysée à ce moment-là qui disaient le seul item, la seule chose qui compte pour lui dans les sondages, c'est est-ce qu'il tient bon. C'est pas est-ce qu'il est populaire, c'est pas est-ce qu'il est soutenu par une majorité de droite, une majorité de gauche.
Son cap,
est-ce qu'il tient bon ? Il dit qu'il a, tout le monde autour de lui dit qu'ils ont tiré les enseignements du quinquennat précédent, qu'il appelle le zig, le zag, le changement permanent, le bruit médiatique et pas de volonté, c'est leur analyse, politique ferme. Et ben, donc en fait, il tient, il continue, c'est la seule chose qu'il regarde dans les sondages. C'est est-ce que je tiens mes engagements, est-ce que je vais jusqu'au bout ?
L'anti-Hollande, c'était le message qu'il faisait dans sa campagne, qu'il avait fait passer dans sa campagne.
D'ailleurs. Mais là où j'entends cette espèce de demande sociétale, je suis un tout petit peu dubitative. Si la demande sociétale se limite, si on va vers l'ouverture de la PMA ou de la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes et les femmes célibataires, j'ai l'impression qu'on y va à pas de loup, à pas compter, voire en marche arrière pour l'instant.
On ne sait pas du tout. Encore une fois, dans une demande sociétale dans le pays, par contre,
il a besoin de quelques
de gauche Alexandre parce qu'il a été élu grosso modo par l'électorat du Parti Socialiste, qui est plutôt ouvert aux mesures sociétales.
On a tous les avis positifs depuis un an, tous. Et pour l'instant, on n'a toujours pas la mesure.
En gros, ce que vous nous dites, c'est que François Hollande, sur les questions politiques, renonçait quand il y avait des obstacles, mais a maintenu le cap sur le mariage pour tous, qui était un marqueur. Et là, ce serait presque l'inverse. Alors,
non, je ne sais pas, je suis dubitative. Ça fait depuis juin 2017 que à peu près tous les obstacles politiques et juridiques, et même éthiques, par le Comité National, ont été levés. Pour l'instant, on n'a toujours pas la mesure.
Romain Dessal.
Non, mais ce qui me frappe beaucoup dans ce que vous disiez, c'est que manifestement, effectivement, Macron regarde, est-ce que je tiens bon ? Est-ce que je suis un président différent ?
Est-ce qu'on
en sait gré ? Et manifestement, oui, c'est ce qu'il regarde. Et ce qui est annoncé aujourd'hui, le retour du paritarisme, etc., me semble, et lui-même présentant le truc comme le temps 2 de son mandat, me semble être un départ très net. Est-ce que c'est de la tactique ? Est-ce que les syndicats sont si faibles que ça que de toute façon Macron dit ce qu'il va faire d'ailleurs sur l'assurance chômage, il dit on va encadrer le truc par une lettre de cadrage ultra stricte et vous aurez 4 mois pour le faire. Donc on est quand même pas il lâche pas complètement tout. Mais est-ce que effectivement il y a un départ par rapport à ce premier Macron ? C'est pour ça que cette frappe m'a beaucoup frappé.
On verra, en tout cas, ce qui se passera à la rentrée. Là, il y avait cette réunion, ces promesses, cette vigilance à la sortie aussi des syndicats et du patronat. On verra comment ça se passe à la rentrée. Dans un instant, on part aux États-Unis dans la suite des informés de France Info. Il est 20h50, l'essentiel de l'info avec Emmanuel Grabet.
Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, ira à Washington mercredi prochain pour discuter commerce avec Donald Trump. Bruxelles l'a annoncé cet après-midi, au lendemain de la saisie par les États-Unis de l'Organisation mondiale du commerce. Il proteste contre la hausse des tarifs douaniers sur certains produits américains. La lutte contre la fraude fiscale en France a moins rapporté l'an dernier, un peu moins de 18 milliards en 2017. C'est 1,5 milliard de moins qu'en 2016, loin du record de plus de 21 milliards récoltés en 2015, chiffre qui émane du rapport annuel de la Direction générale des finances publiques. Le groupe Apichic, propriété de la famille Mullier, va supprimer plus de 460 emplois. Il prévoit la fermeture d'un entrepôt près du Mans et de 90 magasins des marques Jules, Brice ou encore Bisby. Le plan de restructuration a été annoncé ce matin. Et puis, vous étiez 12 à 16 millions dans les rues dimanche soir pour célébrer la victoire des Bleus au Mondial de foot. Un quart de la population française, c'est une estimation Odoxa Dentsu Consulting que vous révèle France Info ce soir. La moitié des 18-24 ans sont sortis de chez eux selon ce sondage.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Nicolas Creusel.
Et le dernier débat des informés ce soir nous emmène donc aux États-Unis avec les dernières sorties verbales et internet, on va dire, réseaux sociaux de Donald Trump, Laure Breton de Libération, Alexandre Devecchio du Figaro, Jean-Christophe Gallien de JCGA et Romain Dessalles de la newsletter Time to Sign Off sont avec nous encore quelques minutes. Il y a eu donc ce sommet d'Helsinki où Donald Trump s'est aligné sur les positions de Poutine et cette conférence de presse au cours de laquelle il a carrément donné raison à la Russie dans l'affaire des accusations d'ingérence sur l'élection. Il a désavoué le FBI. Les enquêteurs, alors apparemment, selon plusieurs médias américains, Donald Trump dit s'être mal exprimé sur Helsinki à propos de l'ingérence de la Russie, tout en ayant tapé dans l'épaule quasiment de Vladimir Poutine. À quoi il joue là, à votre avis, Romain Dessalles?
Objectivement, on a assisté à un truc qui est du jamais vu. Et d'ailleurs, aux États-Unis aujourd'hui, enfin, c'est absolument énorme parce qu'on parle de crayon, etc. Mais enfin, ce qui n'est pas un reproche. Mais ce qui se passe aux États-Unis est un truc absolument inouï. Même Fox News, qui est quand même pas tout à fait la gauche de l'échiquier, a dit du mal de l'intervention même le speaker de la chambre qui est ultra à droite. Donc on est sur un truc qui prête le flanc à tout, parce que objectivement, le voyage européen de Trump est assez cohérent c'est du Trump assez cohérent. C'est un mauvais deal pour les États-Unis. Et quand on regarde les chiffres de l'OTAN, etc., on voit bien la logique.
Il vient dire du mal de l'OTAN, quand il vient dire du mal entre guillemets, critiquer ses alliés de l'OTAN,
c'est du Trump. C'est
America first. Angela Merkel, il aurait pu faire autrement.
Mais la vulgarité de Trump est quand même pas un scoop.
On est d'accord.
Donc tout ça, c'est du Trump. Hier, c'est d'une nature différente. C'est d'une nature différente parce que il y a cette épée de Damoclès.
La nature différente, c'est quoi? C'est quand il renie en territoire
étranger avec Poutine, qu'il opine du bonnet chaque fois que Poutine dit tout ça, c'est du flan. Qu'il dit lui-même. J'ai demandé au président Poutine.
J'ai pas de raison de ne pas le croire.
J'ai vu un tweet aujourd'hui d'un type qui avait pris. Alors la comparaison vaut ce qu'elle vaut. J'espère que vous trouvez pas ça trop pornographique, mais qui met un portrait de George Bush. Qui dit j'ai demandé à Osama et il dit que c'est pas lui qui a fait le coup pour le 11 septembre. On est exactement sur la même démarche. J'ai demandé à Poutine si c'était lui.
Il revient, il serait en train de
Alexandre Poutine n'est pas Ben Laden quand même.
Bien entendu, j'ai pris toutes les précautions.
Moi je le trouve relativement cohérent en fait, puisque c'était annoncé dans sa campagne, son tournant pro-russe. Il gagne avec le pays réel contre l'opinion médiatique et il gagne avec le pays réel aussi sur ce qu'on appelle l'état profond, l'administration américaine, le FBI, etc. sont pas à proprement parler ses amis dès le départ. Donc il y a un changement géopolitique majeur après tout, les États-Unis parlent bien avec l'Arabie Saoudite et la Chine. La guerre froide est quand même terminée depuis longtemps.
Mais qu'un président désavoue le FBI, c'est quand même pas tous les jours.
Il peut parler avec la Russie, sauf qu'il se trouve que dans une partie de sa majorité, les néo-conservateurs notamment, mais ceux qui
dans l'opposition aussi, ceux qui soutenaient Madame Clinton font de la Russie le grand Satan et l'ennemi absolu des États-Unis. Je pense que Trump n'y a jamais cru, c'est pas sa ligne. Il a été obligé de faire avec pour des raisons de politique intérieure, à la fois parce qu'il y a une partie de sa majorité qui est anti-russe et à la fois parce que l'opposition veut s'en servir pour faire des mesures d'empêchement contre lui qui, à mon avis, ne marcheront pas. Là, il était face à Poutine, il a dit ce qu'il pensait, ce qu'il avait réellement dans la tête.
Jean-Christophe, il faut savoir que le média étranger audiovisuel le plus regardé aux États-Unis, c'est Russia Today. Donc on est sur un terrain qui n'est pas aussi simple que ça. Et là, je pense que, autant je suis d'accord sur l'idée qu'il y a quand même un dérapage aujourd'hui sur la forme, pas sur le fond, parce que je pense que c'est assez cohérent avec tout ce qu'il fait. Il y a un jeu qui se joue notamment à trois, là, pour le coup, entre Chine, Russie, États-Unis, l'Europe étant réglée en grande partie. Dommage, d'ailleurs, c'est un défi pour l'Europe, ce qui est en train de se passer en permanence. Il faut vraiment qu'on ait une forme de réaction, pour le coup, si on peut encore en avoir une.
François Hollande,
mais là, je voudrais, par exemple, savoir, il y a quelque chose que je voudrais comprendre, c'est est-ce qu'on va pouvoir voir, par exemple, que les Russes vont non plus vendre des bons du Trésor américain, mais racheter. Il faudrait vérifier dans les prochains jours, dans les prochaines, pour pas dire jours ou semaines, ce qui va se passer. Il se passe des choses intéressantes entre la Chine, les États-Unis et la Russie.
Et quand le président français, l'ancien président français Hollande dit que l'Occident s'aveugle en minimisant les propos de Trump.
Non, mais il est en dehors du jeu et il est.
Mais il a peut-être raison sur le fond, même s'il est en dehors du jeu.
Oui,
voilà. Il parle de tout.
Non, non, mais le défi européen existe. Il est bien clair. Il a raison. Mm-hmm. Il a raison de porter le fer sur le fait que l'Europe ne peut pas être comme ça divisée, ce que cherche à faire évidemment Trump. Trump, il provoque des réactions pour avoir des conversations privées, physiques. Il insulte parfois via Twitter, c'est des cris et des chuchotements. Et quand il est en face des gens, il provoque les rencontres. Juncker va à Washington, il voit Poutine, il voit le Coréen, il voit en permanence ces choses-là. C'est exactement cette méthode-là qui s'apparente plutôt à une forme de gangsta diplomatie qu'à autre chose.
Et que doit-on attendre alors ?
C'était pas si mauvais que
ça. Alors Breton, est-ce qu'on peut attendre quelque chose de la venue de Jean-Claude Juncker du coup pour négocier peut-être quelque chose sur le plan économique à Washington dans quelques jours pour sauver la face de l'Europe ?
Je voulais revenir. Vous dites qu'il se passe beaucoup de choses entre les États-Unis, la Chine. Oui, il se passe beaucoup de choses aussi au niveau européen. Oui. Il y a un accord qui est aussi du jamais vu entre l'Union européenne et le Japon.
Oui,
donc effectivement, il y a des choses
très
qui bien se rééquilibrent. Et
mais c'est une réponse à Trump, ça, l'Union européenne et le Japon.
De toute manière, c'est ça se passe après les invectives de Trump envers l'ennemi Europe. Mais je suis assez d'accord avec Alexandre Devecchio. La différence, c'est que son establishment, même républicain, est en train de réagir. Mais la base est tout à fait satisfaite, la base de son électorat est tout à fait satisfaite de ce genre de comportement et de ce genre de, je sais pas, de, vous disiez gangsta, moi je dirais de diplomatie testostéronée. C'est exactement la réponse que les électeurs de Trump attendent.
Et c'est une femme, la seule de ce plateau ce soir, qui terminera l'émission ainsi. Merci à vous quatre, Laure Breton de Libération, Alexandre Devecchio du Figaro, Jean-Christophe Gallien, Romain Dessalles aussi, d'avoir été dans les informés ce soir. À demain.